Chapitre 35. À l'abbaye, l'appartement de Violette était vide, et sa fidèle femme de chambre avait été renvoyée. Les aboiements sonores et joyeux de son chien ne résonnaient plus à travers la maison. Arion avait été mis au vert. Rien de ce qui rappelait l'héritière exilée n'était resté, sauf l'appartement qu'elle avait habité, et encore, depuis son départ, bien que rien n'y fût changé, semblait-il tout autre et comme étranger à la maison. On eût dit que toute une famille était partie. C'était la présence de Violette qui remplissait la maison de fraîcheur, de jeunesse et de gaieté vivante. Maintenant qu'elle n'était plus là, tout était silencieux comme la tombe. Violette manquait énormément à sa mère. Celle-ci avait l'habitude de se plaindre de la turbulence de sa fille, mais le vide causé par son absence lui glaça le cœur. Elle avait cru que la vie serait plus douce sans Violette, que son intimité avec son mari serait plus complète. Et maintenant, elle regardait, inquiète, la porte de sa chambre, attendant vaguement quelqu'un. Mais la personne qu'elle attendait, ou plutôt qu'elle désirait voir, n'était pas Conrad Winstanley. C'était le pas vif et léger de sa fille qu'elle espérait entendre. Elle eût voulu voir la figure jeune et franche de sa vixaine. Un jour, le capitaine, la surprenant en larmes, lui demanda la cause de sa mélancolie. « Je sais, Conrad, que c'est une grande faiblesse de ma part, » dit-elle piteusement. « Mais Violette me manque de plus en plus tous les jours. »« C'est trop de faiblesse, » répondit le capitaine avec une aimable franchise. « Mais c'est naturel, je le comprends. On s'attache à ses tourments, et comme votre fille était un tourment continuel pour vous, son absence vous chagrine. »« Pour moi, je suis assez sincère pour avouer que je suis très content de son départ. Nous ne pouvions avoir de tranquillité avec elle. »« Mais elle ne restera pas toujours éloignée, Conrad. » Je ne puis rester séparé pour la vie de mon unique enfant, ce serait affreux. Toujours est un mot bien long, répondit froidement le capitaine. Elle reviendra, certainement. Quand, mon ami? Quand elle sera moins jeune et plus raisonnable. C'était peu consolant. Mrs. Winstanley sécha ses pleurs et se remit à sa tapisserie, opération qui fournit un peu de distraction à son esprit troublé. Elle s'absorba dans l'art difficile de bien imiter sur son canevas les nuances des fleurs exotiques ou sauvages, cherchant à rivaliser de perfection avec la manufacture royale de Windsor, et déployant une ardeur digne de Mathilde de Normandie. Quelle triste fin d'été pour Mrs. Winstanley! Sans cette unique distraction que lui procuraient ses travaux d'aiguille, peut-être serait-elle devenue folle de chagrin. Le capitaine avait mené trop longtemps la vie de garçon pour renoncer aux agréments de l'existence. Il aimait la chasse et la pêche, passait des journées entières à la pêche au saumon, fournissait le poisson à la table de l'abbaye, envoyait de temps en temps une bourriche à un ami et le surplus à un marchand de Londres. Joueur effréné, il aimait mieux une partie de billard avec M. Scobel que de ne pas jouer du tout. Il lisait tous les périodiques de quelque intérêt, montait souvent à cheval ou faisait atteler son dog-cart, impossible pour sa femme. Il réglait toutes les affaires de la maison avec une ponctualité des plus précises, écrivait beaucoup de lettres, fumait 6 ou 7 cigares par jour. Par suite, il ne pouvait trouver beaucoup de temps à consacrer à une femme déjà d'un certain âge, et dont les grâces vaporeuses et les airs langoureux avait probablement fini par lui être à charge après un an de mariage. Et pourtant, Mrs. Winstanley n'avait aucune plainte à formuler, bien qu'elle se trouvât singulièrement isolée. Que pouvait-elle reprocher à un homme toujours galant, toujours aimable, témoignant de sa sollicitude pour son intérieur par une surveillance incessante et une préoccupation des moindres détails domestiques, et malgré ses occupations multiples, ne manquant jamais à ses devoirs envers sa femme ou envers le monde. Elle ne pouvait découvrir la moindre imperfection chez son mari, mais elle commençait à s'apercevoir cependant qu'elle était moins heureuse qu'autrefois, alors qu'elle était la veuve du baronnet Tempest. Elle avait totalement perdu son indépendance. Peu à peu, elle comprenait que son individualité était absorbée dans la personnalité de son mari, qu'elle n'avait plus ni autorité ni influence. Elle avait abandonné son compte en banque et la perception de ses loyers. Le capitaine avait pris la direction des revenus de sa femme. Elle eût bien désiré garder son livre de chèques et le compte de son banquier à Southampton, mais le capitaine lui avait montré la folie d'un tel arrangement. « Pourquoi deux comptes quand un seul suffit ? Vous n'avez qu'à me demander un chèque quand vous en avez besoin ou me donner vos factures à payer. » Nouvellement mariée, elle avait gracieusement cédé et le compte en banque avait été transféré. Aujourd'hui, craignant tous les jours l'arrivée du compte de Théodore, toujours en suspens, Mrs. Winstanley regrettait de n'avoir pas résisté. Sans doute, le capitaine avait tout réglé avec une merveilleuse sagesse. Il avait arrêté tous les longs crédits, il payait toutes les factures le premier samedi du mois, et il avait réduit les prix de presque tous les fournisseurs. Les seules dépenses qu'il s'abstint de contrôler étaient celles de sa femme. Seulement, il avait pris l'habitude de paraître étonné quand elle lui demandait un chèque, à cette seule fin d'enrayer, sans en avoir l'air, le renouvellement trop fréquent de ses demandes. Mais ce compte arriéré de Théodore ! Mrs. Winstanley sentait qu'il faudrait se décider à le régler. La crainte de demander de l'argent à son mari l'avait poussée à laisser grossir la note. Elle prenait tout chez ce fournisseur modèle, disposé, du reste, à lui faire les fournitures les plus disparates, ce qui, naturellement, ne pouvait se faire gratis. Comme tous les esprits faibles, elle éprouvait de temps à autre des velléités d'indépendance, de révolte contre son doux tyran. Le revenu était à elle. Elle avait bien le droit de dépenser son argent comme il lui plaisait. Mais alors, elle se rappelait les graves avertissements de son mari. Elle n'avait que quelques années devant elle, et il travaillait, lui, à assurer l'avenir. « J'aurais tort de le contrecarrer, » se disait-elle. Elle était chagrine de voir ses charités réduites. Donner tout ce qu'on lui demandait avait toujours été le plaisir désintéressé de son âme étroite. On avait certes souvent abusé d'elle, et maintes fois le père avait dépensé au cabaret l'argent donné par elle pour nourrir une famille. Mais elle avait été la consolation de bien des malheureux, et la bienfaitrice de beaucoup de mères. Elle avait sauvé par sa générosité plus d'un enfant malade. Aujourd'hui, grâce au capitaine, elle lisait son nom sur toutes les listes de charité. Mais sa main n'était plus libéralement ouverte à tous les malheureux, et son nom n'était plus pour le pauvre affamé le synonyme de charité. Elle soupirait, mais se soumettait, confiante dans la sagesse supérieure de son mari. Aimeriez-vous à vivre dans une petite villa sur la route de Southampton ? Demandait le capitaine. Oh, je suis sûr que j'y mourrai. « Alors, ma chérie, il faut faire de vigoureux efforts et économiser tant que nous pourrons avant la majorité de votre fille. Sans quoi, nous serons assurément contraints de quitter l'abbaye. Nous pourrions bien aller à l'étranger, à Dinan ou dans quelque tranquille ville de France, où la vie ne serait pas trop chère. Mon cher Conrad, je ne pourrais vivre dans une petite ville de France. » Alors nous devons être très économes, ou sinon, dans 6 ans, la vie sera impossible pour nous. » Pamela soupirait et consentait à tout. Ce mot « économie » lui était odieux. Sa vie n'était qu'une suite de frivolités. Elle aimait à éclipser toutes ses amies par sa toilette, à s'entourer de jolis riens ruineux. Le capitaine se montrait sévère pour ses coûteuses folies. C'était toujours avec douceur qu'il parlait à sa femme, mais il devenait aussi dur qu'un roc quand elle essayait de le plier à sa volonté. Mais ayant encore à apprendre ce que coûtait la toilette de sa femme, il ne s'était pas encore interposé. Cette découverte éclata comme un coup de tonnerre par une matinée de juillet, un mois après le départ de Violette. La facture de Théodore se trouva parmi le courrier du matin. Une large enveloppe que le capitaine tendit à sa femme avec sa politesse habituelle. Il n'ouvrait jamais ses lettres, mais il demandait toujours à les voir, et elle les lui donnait avec une douceur enfantine. Ce jour-là, elle ne la lui donna pas tout de suite. Elle regardait d'un air soucieux cette longue colonne de chiffres, et elle oubliait de verser le café de son mari, tant son esprit était troublé et absorbé. « Je crains que vos lettres de ce matin ne soient pas très agréables, ma chérie, » dit le capitaine en remarquant la sombre expression de sa femme. « Est-ce une facture que vous examinez ? Je croyais que nous payions tout comptant. »« C'est la note de ma couturière, » balbutia Mrs. Winstanley. « Une note de couturière, ça ne doit pas être bien terrible. Vous paraissez terrifiée. Le document est aussi volumineux qu'une note d'avoué. » Pour 2 ou 3 remises et 30 de conférences. Montrez-moi le compte, ma chérie. Samedi prochain, j'enverrai un chèque à votre couturière. » Il tendit la main pour prendre le papier, mais Pamela ne s'en dessaisit pas. « J'ai peur que vous ne la trouviez terriblement élevée, Conrad, » dit-elle. « Elle date de longtemps, voyez, de la Noël avant la mort de mon cher Edward. Depuis, j'ai donné quelques acomptes à Théodore. » Mais ces acomptes paraissent fort peu diminuer le total de la facture. Elle est chère, évidemment. Elles le sont toutes, mais son cachet est indiscutable et elle est en relation directe avec Worth. Ma chère Pamela, je ne vous demande pas sa biographie, mais sa note. Je vous en prie, montrez-moi le total et dites-moi si vous avez quelques objections à faire dans les détails. « Non, » soupira Mrs. Winstanley, décontenancée. « Je crois avoir bien eu tout ce qui est indiqué. Bien des articles sont plus chers que je ne le croyais, mais il n'y a pas eu de prix convenu. Ce sont des objets exclusivement parisiens que l'on ne voit pas à Londres. Il faut payer le cachet et l'originalité. J'espère que vous ne serez pas trop contrarié de signer un chèque aussi important. » Dans un moment où vous êtes si préoccupé d'économie. L'année prochaine, je ferai de mon mieux pour vous y aider. Ma chère Pamela, pourquoi tant de paroles oiseuses ? La facture doit être payée, quel qu'en soit le montant. 100 livres suffiront, je pense. Oh, Conrad, alors que tant de femmes payent seulement cette somme pour une seule robe. Celle-là, je prétends qu'elle mérite d'être enfermée à Bedlam, répondit le capitaine avec aigreur. Alors, la facture monte à plus de 100 livres. Donnez-la-moi, Pamela, je vous en prie, et mettons fin à cette folie. » Cette fois, le capitaine s'approcha de sa femme et lui prit le papier des mains. Il n'avait pas encore vu le total, mais il était pâle de rage. Comment ? Il avait résolu d'amasser une petite fortune sur les revenus de l'abbaye pendant les quelques années de sa gérance sans contrôle, et sa folle compagne gaspillait l'argent en chiffons. « Soyez assez bonne pour me verser une tasse de café, » dit-il en reprenant sa place et en dépliant la facture. « Ciel ! » s'écria-t-il après avoir jeté un coup d'œil sur le total. « C'est par trop fort ! Cette femme doit être folle !» Le total montait à 1 764 livres. Mrs. Winstanley n'avait payé que 400 livres d'acompte. Il restait pour le capitaine 1 364 livres à liquider. « En vérité, mon cher Conrad, ce n'est pas un compte si exorbitant, » plaida Pamela, effrayée de l'expression de la physionomie de son mari. « Théodore a des clientes qui dépensent chez elle 2 000 livres par an. Ce sont des extravagantes très louables si elles sont les femmes de millionnaires et si elles possèdent des mines d'or ou d'argent pour soutenir leur luxe. » Mais que la veuve d'un petit baronnet du Hampshire, qu'une femme qui, dans 6 ans, devra vivre d'un modeste revenu, ait un semblable compte chez sa couturière, c'est à mon avis un acte de démence presque criminel. Dès ce moment, je renonce à diriger votre domaine de manière à pourvoir à notre avenir. Qu'importe ! Nous glisserons comme tant d'autres sur la pente de l'insolvabilité. À quoi bon me mettre martel en tête pour arriver à un résultat convenable, quand, en dehors de moi, vos extravagances incroyables paralysent mes efforts et annulent tout ce que j'ai fait. » Mrs. Winstanley fondit en larmes. « Oh, Conrad, comment pouvez-vous dire une chose aussi cruelle? Agir en dehors de vous? Moi qui me suis laissé conduire en tout? Moi qui, pour vous plaire, me suis même séparé de mon unique enfant? Après que votre enfant eut essayé de mettre le feu à la maison. Conrad, vous vous trompez certainement, elle n'a jamais eu cette idée. Je sais ce que je dis, je connais ses pensées, et j'ai vu le fait, dit le capitaine avec humeur. Après tous mes sacrifices, être traité d'extravagante, de folle, de criminelle, c'est trop dur. Je me suis habillé comme il convient à une femme de mon rang, voilà tout. Le cher Edward aimait à me voir bien mise. Il ne m'a jamais fait le moindre reproche en payant mes notes. C'est un bien triste changement pour moi. » Votre avenir sera un changement encore plus triste si vous continuez, répondit le capitaine. Voyons, après la majorité de votre fille, votre revenu doit être de 1 500 livres. Vous avez dépensé en un an 600 livres pour votre toilette. Reste 900 livres pour les écuries, le jardin, le charbon, les impôts, les gages des domestiques, le vin, sans parler de la boucherie, du boulanger et de bien d'autres choses encore. Il vous faudra une merveilleuse habileté pour pouvoir joindre les deux bouts. Je préfère certainement sacrifier quelque chose plutôt que de vivre en mésintelligence avec vous, Conrad, murmura tristement Mrs. Winstanley, dont la main tremblait en prenant son thé. Rien ne me serait plus horrible que d'être en désaccord avec vous. J'ai déjà tant cédé par amour pour vous, Conrad. Que deviendrais-je si je perdais votre affection? Je ne commanderai plus rien à Théodore, si vous le voulez, quoique ce me soit bien pénible. Il y a si longtemps qu'elle travaillait pour moi. Elle connaissait si bien mes goûts. Je m'habillerai tout simplement. Je prendrai une couturière de Southampton. Je ferai tout, Conrad, plutôt que de vous déplaire. Elle s'approcha de lui, posa sa main tremblante sur son épaule et le regarda tristement d'un air suppliant. Un esclave circassien, poussé par la peur du fouet, n'aurait pas eu plus d'humilité aux genoux de son maître. Conrad, malgré la dureté de son cœur, en fut lui-même touché. Il prit doucement cette main et la porta à ses lèvres. « Je ne veux pas être cruel, Pamela, » dit-il. « Je veux seulement vous mettre la réalité sous les yeux et vous faire comprendre votre future position. C'est votre argent que vous gaspillez. Vous en avez certes le droit, mais il est dur pour un homme qui a fait tous ses efforts afin d'arriver à un résultat, de se trouver tout à coup débordé dans ses calculs par un mémoire de 1364 livres. N'en parlons plus, ma chère. La note doit être payée. Nous n'avons qu'à vérifier les articles et à voir si les prix sont raisonnables. » Et le capitaine, le front dans les mains, se mit à lire le détail des folies d'une dame anglaise. Il passa sous silence une partie des objets et en souligna quelques-uns d'un soupir. Sa femme suivait par-dessus son épaule. « Indiquez-moi les erreurs, » disait-il. Mais Mrs. Winstanley n'en trouvait aucune. Un détail forçait quelquefois le capitaine à parler. Une robe de dîner, pain brûlé, mélangée de poux de soie, avec manteau de cour garni de satin ivoire et de fleurs des champs brodées à la main sur du tulle de Bruxelles. 63 livres. Au nom de la raison, qu'est-ce que c'est que ce pain brûlé? Demanda le capitaine impatienté. « C'est la couleur, Conrad, une nuance délicate qui s'est beaucoup portée dans ces derniers temps. 60 guinées pour une robe de dîner, c'est exorbitant. Savez-vous qu'un costume complet me coûte 9 livres et qu'il me dure presque autant d'années? Mon cher Conrad, pour un homme c'est différent, personne ne regarde vos habits. Cette robe était pour le dîner de Lady Helen Gowan. Vous m'avez rendu très heureuse ce soir-là en me disant que j'étais la femme la mieux mise de toutes. » « Je n'aurais pas été très heureux si j'avais eu le prix de votre robe, » répondit le capitaine avec maussaderie. « 15 guinées pour un fichu, Dites-moi de grâce ce que c'est qu'un fichu.
C'est une sorte de demi-mouchoir que je mets sur ma robe de velours quand nous dînons seuls. Vous avez toujours dit que la dentelle s'harmonisait bien avec la toilette d'une femme.
À l'avenir, je prendrai garde à mes paroles, murmura le capitaine tout en continuant sa lecture.
Un peignoir en batiste de France, garni de vraies valenciennes et de rubans bleu turquoise, 19 guinées. Sur ma parole, vous ne voudriez pas donner 20 livres pour une robe que vous mettez lorsque vous faites votre toilette.
Mon ami, c'est une toilette de déjeuner. Vous avez toujours aimé me voir en blanc le matin.
Le capitaine grogna, mais n'ajouta rien.
Ah, dit-il un instant après, voilà qui doit être une erreur. Costume de chasse en velours de soie à côtes, garni de pous de soie cardinal, avec boutons argent oxydé. Sujet de chasse gravé, 27 guinées. Dieu merci, vous n'êtes pas une de ces femmes qui vont à la chasse et sautent les barrières.
Quoique ne chassant pas, j'ai eu cette robe, mon ami.
Théodore me l'a envoyée comme toilette de promenade, et je l'ai souvent portée dans nos promenades en forêt, vous la trouviez très élégante.
Alors, si vous ne chassez pas, vous n'en avez pas moins des costumes de chasse.
La note porte-t-elle aussi sur des costumes de pêche ?
Non, mon ami, c'est Théodore qui a eu l'idée de m'envoyer cette robe. Elle l'a trouvée si neuve et si originale. La duchesse elle-même l'a admirée. Elle n'en avait jamais vu de semblable.
Voilà un triomphe qui vaut bien 27 guinées, soupira le capitaine. Je présume qu'il n'y a plus rien à dire. La note me paraît exorbitante.
Ce serait différent si vous étiez la femme d'un millionnaire. Ces femmes ont le droit de dépenser le plus d'argent possible. Elles font marcher le commerce. Je ne suis pas un puritain, mais quand une femme dépense au-delà de ses moyens, quand sa toilette est au-dessus de sa position sociale, je regrette les anciennes lois somptuaires qui réglaient tout cela à l'époque où un manteau de fourrure était une marque de noblesse.
Si vous saviez, Pamela, combien toute cette dépense est inutile, combien elle ajoute peu à votre considération, combien peu elle rehausse votre beauté.
Soyez tranquille, la plus belle des robes de Madame Théodore ne cachera jamais une seule de vos rides.
Mes rides ? S'écria Pamela, horriblement vexée. C'est la première fois qu'on m'en parle. Et c'est mon mari qui, le premier, me dit que je suis vieille.
Mais j'oubliais, vous êtes plus jeune que moi, et je suis sûre qu'à vos yeux, je suis tout à fait vieille.
« Ma chère Pamela, soyez donc raisonnable. Le visage d'une femme de 40 ans peut-il être aussi frais que celui d'une femme de 20 ans ? Quelque belle que soit la femme à cet âge, et c'est à mon avis le plus bel âge, il doit y avoir des indices qui montrent qu'elle est arrivée à la moitié de son existence. Supposer que du brocart pain brûlé et des broderies à la main puissent effacer ces indices, c'est insensé. »
Avec une toilette de velours noir rehaussée d'une de ces vieilles dentelles que vous possédez depuis 20 ans, vous seriez aussi belle qu'un portrait peint par les maîtres vénitiens. Tout le grand art de Théodore peut-il vous donner mieux que cela ?
À l'avenir, Conrad, je serai tout à fait économe. L'année passée, je me suis habillée pour vous plaire.
Mais que deviennent toutes ces robes ? Demanda le capitaine en pliant la facture. Qu'en faites-vous ?
Elles passent.
Où donc ? Aux colonies ?
Non, mon ami, elles passent de mode, et je les donne à Pauline.
Une robe de 60 guinées à votre femme de chambre ? La duchesse de Dovedale ne ferait pas mieux les choses.
Je serais bien fâché de ne pas m'habiller mieux que la comtesse, riposta Mrs. Winstanley. Elle est toujours fort mal mise. Mais une duchesse peut s'habiller comme elle veut.
J'enverrai à Théodore un chèque, et, avec votre permission, je fermerai votre compte. À moins que votre fortune ne s'augmente, je vous recommanderai de ne pas le rouvrir.
Elle eut un gros soupir.
« Je sacrifierai tout pour vous, Conrad, dit-elle. Mais je serai affreuse, et vous me détesterez.
Je suis amoureux de vous, ma chère, et non de votre robe.
Mais vous vous êtes épris de moi dans ma robe, mon ami. » Et vous ignorez vous-même quels auraient été vos sentiments si vous m'aviez vu dans une toilette coupée par une couturière de province.